bien, le constat, c'est qu'à Paris, le prix moyen du mètre carré a franchi en août le seuil symbolique des 10 000 euros.
10 000 euros du mètre carré.
Très précisément, 10 090 euros.
10 190 euros, précisément.
Il faut dire que les taux d'intérêt restent très bas.
On en est à quoi? Quel est le taux d'intérêt aujourd'hui?
On est en moyenne à 1,20.
1,20. 1,20. 1,20.
Ah, ça vous fait sourire, hein? 1,20. Mais c'est vrai, c'est stupéfiant. Bientôt, la norme pour acheter son appartement, ça pourrait être le crédit à 1%. Il y a 10 ans, on empruntait à 4,5%. Le prime ou moins cher, la durée de remboursement plus longue, l'apport personnel un peu moins contraignant, mais c'est la fête du marché du logement. En tout cas, la fête des propriétaires et des promoteurs. À Toulouse, pour 10 vendeurs, 13 acheteurs. Alors bien sûr, la médaille, elle a son revers, hein, ça fait grimper le prix du mètre carré. Ne parlons même pas de la capitale, Paris, cas particulier. À Lyon, à Nantes, sur un an, plus 10% pour le mètre carré. Et pourtant, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, il n'a jamais été aussi intéressant d'acheter plutôt que de louer. Restez locataire plus de 2 ans si vous faites vos comptes. À Lille, il faudrait être maboule et à Marseille, un peu fada. Alors, il y en a que ça rend dingue, bien sûr. Ce sont tous ceux qui, malgré la baisse des taux, ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est un effet pervers. Les inégalités, fractures territoriales, fractures patrimoniales, tous ceux qui peuvent profiter de l'argent pas cher et les autres. Alors, grâce à qui ou la faute à qui tout ça? Écoutez, prenez Perpignan, tracez une diagonale direction nord-ouest, vous faites un bon millier de kilomètres et là, vous arrivez en Allemagne, à Francfort am Main, un gratte-ciel vitré, bah c'est là le siège de la Banque Centrale Européenne. La baisse des taux, c'est sa politique monétaire. Et oui, la BCE, si loin, si proche.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le magazine de l'économie de France Inter et nous sommes ensemble à Paris, en studio, partout en France, jusqu'à 10h avec Coyen Guyenne, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production et Serge Viguier à la technique. Si j'osais, je dirais que cette politique monétaire, les Français la commentent un peu tous les jours sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Bonjour Emmanuel Lechip de BFM Business.
Bonjour Alexandra Ben Saïd, bonjour à tous.
On est un peu des Monsieur Jourdain de la politique monétaire, hein.
Bien sûr, mais sonnant et trébuchant. Hein. Attends, la baisse des taux, songez qu'il y a un an, quand vous empruntiez 250 000 euros sur 20 ans, ça vous coûtait 70 000 euros de coût de crédit. Aujourd'hui, ça vous en coûte la moitié, c'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, vous avez économisé 35 000 euros de coût de crédit. C'est quand même spectaculaire.
Et en même temps, il n'a jamais été aussi intéressant d'acheter.
Mais alors ça, c'est fascinant, parce que depuis 30 ans que je lis des unes sur... C'est toujours le moment d'acheter. Enfin, c'est un pays quand même, la France, assez particulier, où c'est quand même ceux qui expertisent le marché immobilier, c'est quand même ceux qui vendent les biens immobiliers, les grands réseau d'agences, donc ça incite à une certaine prudence.
C'est bien noté. Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bon, comme ça nous concerne, on va parler un peu plus en détail avec vous, Christian Emmanuel, de ce que peut faire la BCE pour nous, hein, de sa politique monétaire. Le patron sera bientôt une patronne. Christine Lagarde, quels sont ses plans? Il y avait une première audition de Christine Lagarde cette semaine, c'était devant le Parlement européen. Eh bien, votre débat, messieurs, dans environ 35 secondes. Au menu également du Mageco, la réforme des retraites. Tout ne fait que recommencer. Les partenaires sociaux ont été reçus à Matignon. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sera avec nous vers 9h45. Et s'il faut travailler plus longtemps, est-ce que les entreprises sont prêtes à garder leurs salariés? C'est une question et vous entendrez le reportage d'Anaëlle Verzo sur ce sujet. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Alors Sandrine, ma vie au boulot, toujours des auditeurs qui vous écrivent et là c'est Olivier.
Oui, et c'est très simple. Olivier va tous les jours en vélo au travail.
Ah, c'est bien Olivier.
Et il veut savoir s'il touchera les 400 euros de la prime mobilité durable.
Ah, c'est bien de faire le clair aussi parce qu'on en a beaucoup parlé, on ne sait pas où on en est. Tout de suite, avant Sandrine Foulon, avant le débat, tout de suite cette question. Christine Lagarde va-t-elle sauver l'Europe?
Je crois en particulier que pour permettre l'appropriation par les citoyens des États membres de la zone euro, il faut passer par tous les canaux qui les atteignent et par tous les langages qui sont compréhensibles. Vous savez, quand j'ai rejoint le FMI, j'ai commencé par demander à toutes les équipes de cesser d'utiliser des abréviations, parce que c'est une des façons de tenir à l'écart et d'exclure. De la même manière, je pense qu'il faut impérativement dépoussiérer le langage et s'épargner un excès de jargon technocratique pour permettre aux citoyens, aux consommateurs, à des gens qui ne sont pas forcément des experts en politique monétaire, de comprendre à quoi ça sert la BCE, de comprendre quelle est la valeur d'une monnaie, de comprendre quels sont les moyens d'action, de comprendre en quoi ça constitue un élément de la souveraineté régionale.
Voilà, elle sera aux commandes le 1er novembre prochain pour prendre la suite de l'Italien Mario Draghi, c'est Christine Lagarde. Le mandat, c'est 8 ans quand même. 8 ans, ça laisse du temps pour faire les choses. On va prendre Christine Lagarde au mot, Christian Chavagneux. Est-ce qu'elle a raison ? C'est toujours bien de déjargonner, mais en quoi c'est un enjeu ?
C'est un enjeu clé parce que la Banque centrale, c'est l'autorité publique qui est en charge que dans toutes les économies, et entre autres pour la BCE, l'économie européenne, il y a exactement la quantité de monnaie qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Si la BCE elle fait n'importe quoi et qu'il y a trop de monnaie, les gens se mettent à spéculer, ça donne des crises, et nous après, on le paye, on perd en croissance, on perd des emplois. À l'inverse, si elle permet pas d'avoir assez de monnaie dans l'économie, on perd des opportunités, et là encore, on perd des emplois, et ça nous touche donc tous au premier chef. En fait, la BCE, elle fait un truc très... Les financiers, ils commencent à jargonner, ils nous enfument avec plein de mots compliqués, comme ça, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin. En fait...
C'est un petit peu complotiste, ça. En fait, non, Christian, mais, quand vous
non,
dites mais, ça.
Non, c'est pas du tout
complotiste.
C'est
de la mise à distance.
C'est de la mise à distance, comme ça, on reste entre experts et on peut décider ce qu'on veut. En fait, il faut que les auditeurs, ils sachent qu'un banquier, c'est un épicier. Et c'est pas plus compliqué. Il va acheter quelque chose en gros, comme pour les Parisiens, à Rungis, et il le vend plus cher au détail que ce qu'il a acheté en gros. Et un banquier, il fait exactement la même chose. Il va acheter un truc, c'est pas des pommes ou des bananes, il va acheter de l'argent sur le marché de gros à Rungis, pour les Parisiens, et il va le revendre au détail plus cher, et il encaisse la différence.
Et le marché de gros, c'est la Banque Centrale.
Alors, le marché de gros, il y a trois choses importantes. Il y a nous. Le gros du marché de gros, c'est nous, les salariés. On laisse nos dépôts à la banque. Et ça, le banquier, il puise là-dedans. Il y a des fois des banques, elles ont un peu trop d'argent par rapport à ce qu'elles veulent faire. Elles le prêtent aux copines. Donc ça, c'est la deuxième source de marché de gros. Troisième source, c'est la Banque Centrale. Et là, la Banque Centrale, elle décide de donner plein d'argent aux banques. Et du coup, les banques, c'est facile, elles peuvent nous faire plein de crédits. Ou alors, elles décident d'en donner pas beaucoup et de dire aux banques, non, là, il y en a trop, j'en ai marre. Et du coup, les banquiers, ils ont moins d'argent à nous prêter. Voilà, la Banque Centrale Européenne, c'est tout ce qu'elle fait. Mais c'est tout. Et en même temps, c'est un rôle clé pour nos vies, pour nos emplois.
Un rôle clé pour les économies, Emmanuel Le Chypre.
Alors, ce qu'a expliqué Christian, c'est pourquoi, tout le temps, en permanence, la Banque Centrale, c'est très important. Et en gros, il a expliqué ce qu'il faut savoir tout le temps sur la Banque Centrale. Pourquoi c'est particulièrement important maintenant que la Banque Centrale descende dans la rue? Il y a deux raisons. La première, c'est une raison politique qu'avait déjà avancé Mario Draghi. C'est de faire prendre conscience aux Européens que dans une Europe qui, politiquement, n'a jamais été aussi faible, jamais été aussi délité sur le plan politique, avec des gouvernements extrêmement faibles partout, des coalitions brinque-ballantes, qui en Espagne, qui en Italie, une Angela Merkel qui ne sait pas trop où elle va. La maison est tenue. Il y a quelqu'un qui dirige et qui s'occupe de l'Europe. Européens, ne soyez pas inquiets. Si vous n'avez plus confiance dans vos dirigeants politiques, il y a derrière la Banque Centrale Européenne et c'est elle qui tient la maison. Je pense que c'est un message de confiance extrêmement important. Et la deuxième explication, qui est très importante aussi, c'est qu'il faut que les gens comprennent que les prochaines étapes d'une éventuelle politique monétaire nouvelle pour gérer une éventuelle crise, ce sont les politiques dont on parle, c'est des politiques qui vont directement concerner les gens. Je pense à cette fameuse hélicoptère monnaie. C'est-à-dire, en gros, vous savez, on nous dit, s'il y a une prochaine crise, qu'est-ce qu'on peut faire encore alors que les taux d'intérêt sont nuls,
voilà.
Déjà.
Et alors, on va en discuter,
par exemple,
vous devancez le débat, parce
discuter.
Qu'on a déjà fait non, beaucoup de choses. On va raconter ce que c'est, ces outils.
Il y a cette idée, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, hein, vous voyez bien l'image, c'est-à-dire un hélicoptère qui distribue des billets à tout le monde, etc. C'est de mettre directement de l'argent sur nos comptes. Et donc, pour que ces prochaines politiques monétaires soient efficaces, il faut absolument que les citoyens les comprennent et s'en emparent. Donc, je pense que pour ces deux raisons-là, c'est particulièrement important aujourd'hui, en plus que ce qu'a dit Christian, de comprendre ce que c'est que la politique monétaire et la Banque Centrale.
Vous nous avez fait une superbe photo. Il y a juste une chose qu'on n'a pas dit aux auditeurs et qui est particulièrement importante, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle est indépendante politiquement. C'est qu'il y a des représentants. Dites-nous, Christian, il y a qui dirige ?
Vous l'avez signalé, un mandat de 8 ans, ça permet de ne pas subir les aléas des fluctuations politiques. Et donc, c'est d'autant plus important de choisir la bonne personne.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique, évidemment. Chaque pays,
bien évidemment,
les Allemands.
Puis tout ce qu'on vient de dire depuis le début, on voit bien que les choix de la BCE sont des choix politiques et sociaux. C'est bien pour ça que ça nous intéresse en tant que citoyens.
Alors, il y a un débat sur le bilan des 8 dernières années, les années de Mario Draghi. Un débat sur quels outils ont été utilisés et en fait, est-ce que ces outils ont fait du bien aux populations ? Emmanuel, Christian.
Alors, les outils, en gros, on pensait que, je reprends mon image du marché de gros, la Banque centrale, elle peut donner, hein, sur le marché de gros, beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent aux banquiers, et surtout, elle peut dire à quel prix elle le donne. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque centrale. Lorsque la Banque centrale prête aux banques très très cher, les banques, elles ont eu un coût de ressources cher, donc elles vont, de l'autre côté, vendre plus cher. C'est-à-dire nous faire des crédits, par exemple des crédits immobiliers, plus chers. Si le taux est bas, les taux sont plus...
C'est comme ton épicier, il faut qu'il fasse sa marge.
Exactement. Donc, si le coût de la ressource augmente, eh ben, ce que je vends, je le vends plus cher. Donc ça, on se disait, dans les cours d'économie, quand vous commencez à faire des cours sur la Banque centrale, on vous explique ça, le taux directeur qui dirige un peu les autres taux. Sauf qu'on s'est aperçu qu'avec la crise, on était descendu avec des taux à zéro, et il fallait bien trouver d'autres choses. Et les autres choses, c'est deux choses, en fait. C'est d'abord donner un guide sur le futur. Quand vous avez des taux d'intérêt à zéro, vous pouvez dire que, la Banque centrale, elle a plus rien à dire sur les taux d'intérêt. Si. Parce que la Banque centrale, elle veut non seulement jouer sur l'état de l'économie aujourd'hui, mais sur l'état de l'économie demain. Elle veut que tous les gens qui ont besoin d'argent anticipent ce qui va se passer demain. Et donc, elle fait un guide sur le futur. Elle dit, non seulement mes taux sont à zéro, mais dans les 6 prochains mois, dans la prochaine année, sur les 2 prochaines années, mes taux resteront à zéro.
Ça, donc, sont les conférences très, très jargon. C'est ça, sont les conférences des présidents de la BCE où à chaque fois il y a des indications sur le futur, c'est
exactement, c'est ce qu'on appelle en anglais la forward guidance. Donc moi j'ai traduit ça sur le guide sur le futur où on vous dit, non seulement vous connaissez ma politique, vous vous rappelez d'Alan Greenspan, celui qui dirigeait la Banque centrale des États-Unis, il disait, si les gens ont compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. C'est fini ce temps-là.
On vient d'entendre Christine Lagarde. Hein, ouais.
C'est fini le temps où les banquiers centraux devaient être tellement absents que personne ne comprenait rien, comme ça la Banque centrale allait surprendre tout le monde tout le temps. Non, maintenant la Banque centrale, elle dit, les 6 prochains mois, la prochaine année, vous saurez exactement, il n'y aura pas de surprise. Et puis, avec la crise, ils ont inventé le fameux quantitative easing, c'est-à-dire acheter des titres de la dette publique. En gros, la Banque Centrale Européenne, rien ne l'autorise dans les traités à acheter des titres pour, en gros, financer la dette publique des États. En fait, elle a twisté les traités et elle a réussi à le faire. Et honnêtement, c'est pour ça qu'on a aussi des taux d'intérêt très bas. Pourquoi nous, la France, cette semaine, à 15 ans,
La France a emprunté
à un taux négatif. C'est-à-dire que les investisseurs ont tellement confiance dans l'avenir de la France sur les 15 prochaines années qu'ils ont dit, notre argent, on ne sait pas trop quoi en faire, on va le donner à l'État français et en plus, on va lui payer une petite prime pour qu'il nous garde notre argent. C'est quand même formidable. Et c'est tout ça, c'est en grande partie l'effet de la Banque, pas seulement, mais c'est en partie l'effet de la Banque Centrale Européenne.
Emmanuel de Chypre.
C'est vrai que la grande différence, c'est que avant, c'était les marchés qui décidaient du niveau des taux d'intérêt à long terme. Hein. Il y avait un marché de l'occasion où, en gros, ceux qui avaient besoin d'argent, les entreprises, les États, émettaient des crédits et les épargnants du monde entier achetaient ces crédits et ça fixait les taux d'intérêt à long terme. Et effectivement, avec la crise, les banques centrales ont eu envie d'abaisser aussi ces taux d'intérêt à long terme. Et ces taux immobiliers si bas aujourd'hui...
Vous dites-les parce que vous pensez aussi à la Banque Centrale Américaine.
Parce que tout le monde a fait à peu près la même chose, la Banque d'Angleterre, etc. Ouais. Et donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt immobiliers sur 15 ans, 20 ans sont aussi extrêmement bas aujourd'hui. Si on fait le bilan de ce qui s'est passé, de ces politiques assez atypiques, hein, assez nouvelles, au début, effectivement, au moment de la crise, c'est vrai que ça a sauvé énormément d'agents économiques, d'entreprises, de ménages et même les États.
Et ça a évité et de banques
et ça a évité que cette crise de 2008 détruise complètement l'économie mondiale et le système financier. Mais encore une fois, il faut bien le rappeler, les banques centrales, ça n'est pas le médecin qui vous soigne, c'est l'infirmière qui vous distribue la morphine pour empêcher la douleur, mais vous ne sortez pas guéri. Et toute cette politique monétaire, elle n'a pas abouti à une croissance potentielle plus élevée, à une amélioration de l'efficacité de nos économies, et elle a même eu, au fil du temps, des effets pervers. C'est-à-dire que quand vous avez des taux d'intérêt nuls à court terme et à long terme, c'est-à-dire que quand le temps ne vaut plus rien et que le risque ne vaut plus rien, vous voyez tous les dérèglements que ça peut produire. Des tas de gens qui investissent dans des investissements qui sont improductifs, inefficaces. Vous augmentez les inégalités parce que vous faites monter les marchés financiers et les marchés immobiliers au détriment de ceux qui n'ont pas de patrimoine, etc. Et donc, et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, ça n'a pas abouti à une amélioration de nos économies, de la performance de nos économies.
Alors, Christian Dodine de la tête.
Je suis plus mitigé. Est-ce que la question qu'a posée Emmanuel, vous avez posé Alexandra, c'est est-ce que ça a été efficace tout ça depuis quelques
pour
années?
Pour nous, pour la croissance, pour les populations.
Donc, c'est bien ça.
Efficace, les épargnants, ils vous disent tout de suite, ah ben non.
Efficace pour qui? Sauver la zone euro, oui, honnêtement, Emmanuel a raison tout à l'heure, quand il a dit au moment où tous les dirigeants de gouvernement étaient complètement paumés, il y a Mario Draghi qui a dit, vous attaquez la zone euro, vous les financiez, de toute façon, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et mon pouvoir, elle est énorme. Donc, on a sauvé la zone euro. Est-ce que ça a permis que nous, les ménages, on puisse avoir encore du crédit, que les entreprises qui veulent investir puissent encore avoir du crédit, alors que les banquiers étaient un peu frileux? Oui, la progression du crédit est extrêmement forte. Les derniers chiffres qu'on a en France, c'est juillet, plus 6,4% pour le crédit aux ménages, plus 7,5% pour le crédit aux entreprises. On a évité la crise de crédit. Est-ce que ça nous a évité la déflation, un risque que tous les prix, les salaires s'effondrent? Non, on est sur un rythme d'inflation entre 1-1,5, mais ça, c'est pas vraiment la faute des banquiers centraux. C'est la faute du fait qu'on n'a pas relancé les économies du côté des États. Première chose. Et deuxièmement, c'est qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que nous disent certains économistes, au plein emploi. Quand vous êtes vraiment au plein emploi, que tout le monde a un boulot, les salaires remontent. Là, les salaires commencent tout doucement,
en tous les cas, c'est la théorie,
en Europe, à remonter. Et donc, du coup, comme on n'est pas vraiment au plein emploi, il n'y a pas de reprise des salaires, il n'y a pas de reprise de l'inflation. Est-ce que ça a assuré la rentabilité des banques? Et là, je vais peut-être surprendre les auditeurs en disant que non. Oui, la Banque Centrale a sauvé toutes les banques. Mais comme je disais tout à l'heure, mon marché de gros, mon marché de détail, quand vous empruntez à un certain taux d'intérêt et que vous reprêtez à plus long terme et que le taux auquel vous prêtez est très proche de celui auquel vous empruntez, vous ne faites pas de rentabilité. Et 60% de la rentabilité des banques, ça vient de cette différence de taux d'intérêt.
Alors maintenant, ça c'est le bilan Draghi. Maintenant, il y a Christine Lagarde qui va arriver. Est-ce que dans l'audition qu'elle a devant le Parlement européen, est-ce que vous avez senti que sa politique allait être différente, Emmanuel Le Chypre?
Le problème, c'est que son audition, c'est à moitié...
Elle est encore prudente.
C'est-à-dire, son audition, c'est à moitié une audition de l'ancienne patronne du FMI qu'elle n'est quasiment plus, et une demi-audition de future patronne de la BCE qu'elle n'est pas encore. Donc toutes les questions autour de qu'est-ce qu'elle va faire en matière de politique monétaire, de taux d'intérêt, elle a dit grosso modo je peux pas répondre, et après c'est engagé. Quand même, mais bon, elle va maintenir les taux bas, d'accord.
Elle va faire la même chose,
mais c'est quand même intéressant.
Elle va faire la même chose, voilà, c'est ça. Et alors après, effectivement, il y a autour de ok, si ça vous fait plaisir, on va faire un peu plus vert, etc. Mais grosso modo, je pense pas qu'il y aurait des changements fondamentaux. Faut pas se tromper, quand elle dit il faut aussi démocratiser un peu ce monde, c'est un discours qui vaut pour l'intérieur de la BCE, parce qu'il faut rentrer aussi dans la cuisine interne. Ce qui s'est passé quand même avec Mario Draghi, c'est que ça a été Mario Draghi impérator. C'est-à-dire que normalement, le fonctionnement de la BCE, vous avez un président, vous avez un board de 6 gouverneurs, et tout le monde doit décider ensemble, avec les gouverneurs ensuite de Banque Nationale. Il a fait une OPA totale sur le fonctionnement de la BCE, Mario Draghi. Il a plus donné la parole à personne. Un quasi-dictateur de la politique monétaire.
Si.
Christine Lagarde, elle va devoir remettre de la collégialité dans le fonctionnement de la BCE. Parce que Christine Lagarde, sa grande qualité, il faut se rappeler, c'est pas une économiste, c'est pas une financière, c'est pas une bancaire. Son énorme qualité à Christine Lagarde, c'est que c'est une vraie patronne. C'est quelqu'un qui sait faire travailler les gens ensemble. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on va la chercher. Elle a eu juste une phrase géniale à la télé américaine. On lui a dit, regardez, à chaque fois qu'il y a une situation désespérée dans le monde, on va chercher une femme. Parce que quand on l'a mise à la tête du FMI, c'était désespéré. Et là, voilà. Donc c'était assez drôle. C'est ça, sa qualité. Et pour moi, il y a un enjeu.
La prochaine
sur
crise,
le fonctionnement de la BCE en interne. C'est ça aussi qui n'est pas négligeable. C'est ça qui va changer beaucoup.
Christian.
Le problème, c'est qu'au moment où on avait une grosse crise en Europe, Mario Draghi, il a su imposer un point de vue.
Oui.
Mais même si c'est consensuel. La question qu'on se pose avec Christine Lagarde, qui est une personne qui sait bâtir des consensus, c'est qu'au moment où il y a une crise, il ne faut pas bâtir des consensus.
Exactement.
Il faut taper du poing sur la table et dire c'est comme ça. Est-ce qu'elle saura le faire? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis très sensible. Pour l'instant, c'est du discours. On verra bien. Mais je suis très sensible au fait qu'elle dise il faut lire alternative économique, c'est-à-dire il faut déjargonner l'économie. Elle l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Il faut être plus à l'écoute de la société civile, et ça, c'est vraiment un point fort. Et trois, il faut une BCE plus verte. Aujourd'hui, vous avez quand même des banquiers...
C'est-à-dire il faut financer la croissance verte, les investissements verts.
La BCE peut-être directement aider à financer l'investissement vert, mais la BCE refinance des banques qui, elles-mêmes, financent largement plus, mais très largement plus. C'est Oxfam qui le dit avec de très bons chiffres. Allez sur leur site, vous aurez tous les chiffres. Des économies et des entreprises qui nous polluent la planète plutôt que des entreprises qui vont vers les énergies renouvelables. Si vraiment elle fait ça, c'est vraiment, elle va vraiment changer le poids de la politique monétaire en Europe.
Et les économies, oui, non, allez-y Emmanuel.
Il y a un point qui est quand même cette idée de relance que tout le monde partage maintenant. Il faut dépenser plus, il faut relancer plus, etc.
Elle a dit que les États devaient prendre leur part.
Oui, alors.
Elle a raison.
Elle a raison, mais elle dit la même chose que Mario Draghi. Mais attention, il disait pas tout à fait la même chose. Mario Draghi, quand il disait les États doivent prendre leur part de travail, c'était plutôt, lui, il était plutôt sur les réformes structurelles, la compétitivité, la rigueur budgétaire, etc.
L'investissement numérique.
Je suis d'accord. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire, il faut faire ça. Et donc, moi, je pense que le bon deal en Europe à créer, c'est de dire, OK, les pays qui peuvent relancer, ils doivent relancer. L'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Oui. Et par contre, les pays qui n'ont pas fait les réformes, ils doivent faire les réformes. Donc pour moi, le bon deal gagnant-gagnant en Europe, ce serait un deal. Relance pour ceux qui le peuvent, réforme pour ceux qui le doivent. Et là, on sort avec une Europe qui est plus forte. Et ça, Christine Lagarde, elle est capable de créer ce consensus-là.
Ça sera au programme la semaine prochaine de l'Eurogroupe, c'est le 13 septembre, à Helsinki. Alors l'Allemagne, justement, qui a des excédents. Vu d'Allemagne, comment prend-on cette idée d'une relance des investissements publics? Allez, nous partons outre-Rhin, los.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Nathalie Versieux.
Bonjour.
Nathalie, vous êtes la correspondante en Allemagne pour le journal suisse Le Temps. Les Allemands, donc, auraient les moyens de faire une relance. Et jusqu'à présent, Berlin disait « nein ». Mais est-ce que le ralentissement économique outre-Rhin, ça change la donne? Est-ce que le débat sur la relance s'installe chez vous?
Ben là, je répondrai par un Yann, c'est-à-dire l'équivalent allemand du oui et non. Il faut d'abord rappeler qu'il y a un consensus absolu en Allemagne sur l'équilibre budgétaire. Ça va de la droite à la gauche. Personne ne s'identifie avec cette notion, qui ne s'identifie avec cette notion symbole d'un budget bien tenu et du respect des générations à venir. Alors pour le oui, parlent les excédents allemands dont vous venez de parler, tant au niveau du budget fédéral que des caisses d'assurance maladie ou de retraite, et c'est là qu'intervient le débat. Est-ce qu'il faut accélérer le désendettement et constituer des réserves en prévision d'une détérioration de ces budgets qui est assez inévitable du fait de la crise démographique, ou bien est-ce qu'il faut au contraire relancer l'investissement public? Alors cette seconde option est préconisée par des économistes proches des sociaux-démocrates, mais aussi de plus en plus par les milieux patronaux qui attendent des investissements dans les infrastructures, le réseau Internet, de plus en plus aussi dans des soutiens indirects à l'investissement des ménages sous la forme de subventions aux énergies renouvelables, aux véhicules électriques, aux bâtiments ou à l'isolation des bâtiments, la construction de nouveaux logements ou l'isolation des bâtiments, cette économie verte dont vous venez de parler.
Et on parle de quel ordre de grandeur, Nathalie ?
Alors, les chiffres qui sont le plus souvent évoqués, c'est de l'ordre de 40 à 50 milliards d'euros par an sur une période de 10 ans. C'est en tout cas ce que réclame la banque d'investissement public KfW, qui chiffre le retard d'investissement des communes pour les seules communes à 138 milliards d'euros. L'Institut DIW de Berlin, qui est proche des syndicats, parle lui aussi de 50 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Le problème à Berlin, c'est la faiblesse de la coalition au pouvoir, qui est incapable de dévier de son programme de coalition. Et puis Angela Merkel, affaiblie jusqu'au sein de son parti, qui n'aurait guère les moyens de faire bouger les choses. Et de toute façon, vous parliez tout à l'heure de taper du poing sur la table, c'est pas du tout son style.
Nathalie Versieux, avec nous depuis Berlin, merci à vous, merci à Emmanuel Le Chypre, à Christian Chavagneux. On se retrouve les débatteurs la semaine prochaine, même jour, même heure. À venir dans la prochaine demi-heure, c'est le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Il était à Matignon hier, consultation sur la réforme des retraites. Ces dernières semaines, le débat, il a cristallisé sur l'âge de départ et la durée de cotisation. Mais cette obligation de travailler plus longtemps, qu'on en pense du bien ou du mal, ça pose quand même une question. Et les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à garder leurs salariés plus longtemps ?
Soraya ? Ah, voilà, ça va et vous?
Oui, ça va, encore la tête en vacances, encore.
Ouais,
voilà.
Alors,
hop là.
Restez à droite.
D'accord. Alors,
Soraya,
oui,
ça fait combien de temps que vous faites ce métier de conductrice?
Oui, alors ça fait 7 ans, 8 ans au mois de novembre.
C'est un CDI à mi-temps?
Tout à fait.
Vous travaillez combien d'heures par jour?
Par jour, 2 heures, 3 heures, pas plus.
Et du coup, pour quel salaire?
La moitié d'un SMIC, un peu plus, si je travaille des week-ends. Hein.
D'accord, donc voilà. Ça vous fait 600 euros à peu près?
Oui, dans cette moyenne-là, je peux faire plus, hein. Mais voilà quoi.
Et puis vous avez une famille peut-être aussi?
Alors, maintenant je suis grand-mère.
Et vous avez quel âge? Vous êtes quand même jeune pour être grand-mère?
56 ans.
56 ans.
Voilà.
Et Soraya, qu'est-ce que vous faisiez avant de faire ce métier?
Oh là là, avant j'ai fait beaucoup de choses. Donc quand j'étais jeune, j'ai travaillé en usine. J'ai fait des ménages, j'ai travaillé chez Renault. En plus, après, je me suis retrouvée au service des impôts. Et puis, j'ai eu mes grossesses, donc forcément...
Combien d'enfants ?
4. Puis après, grosse difficulté après pour trouver du travail, parce que dès qu'on a des enfants...
Vous êtes arrêtée pour les garder ?
Voilà.
Et est-ce que vous avez calculé le montant de votre retraite ? Parce que si je comprends bien, vous avez fait plein de boulot dans votre vie.
Oui. Peut-être dans les 800, 900, je ne sais pas, j'espère. Voilà, quoi. Et puis là, maintenant, apparemment, ça va changer, là, au niveau retraite. Donc, j'attends de voir.
Et si on fait une projection dans le futur, vous avez 70 ans.
Oui.
Est-ce que vous continuez à faire ce travail ?
Ah oui, je continuerai, je m'accrocherai à mon volant. Tant que je peux encore conduire, parce que c'est pas évident non plus arriver à 70 ans ou d'avoir les mêmes réflexes qu'un jeune de 20 ans à la conduite. Hein. Ça a le temps d'arriver.
On verra.
Oui, j'ai encore une dizaine d'années quand même.
Quand même.
Il faut attendre.
À 480 mètres, tournez à gauche.
Voilà, nous sommes dans le véhicule de fonction de Soraya qui conduit des personnes handicapées. Soraya, elle a 56 ans. Dans sa tête, elle est prête à travailler jusqu'à 70 ans. L'envie de rester dans le match, c'est ce qu'elle dit à notre reporter, Anaël Verzo, et aussi le besoin d'argent pour vivre. Oui, depuis 1993, toutes les réformes du système de retraite ont suivi cette direction. Demander aux Français de rester au boulot plus longtemps pour que le budget dévolu aux retraites n'explose pas. Aujourd'hui, c'est une enveloppe quand même de 300 milliards d'euros. Mais que se passe-t-il quand l'équation financière rencontre la réalité des entreprises ? Eh bien là, ça se complique. Regardez, les seniors qui déjà aujourd'hui ont bien du mal à rester en emploi jusqu'à 62 ans, l'âge légal.
Appel en cours.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Michael Zemmour.
Michael Zemmour, vous êtes économiste et maître de conférence à l'Université de Paris 1. Aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, il est de combien ? C'est quel âge ?
Alors aujourd'hui, on peut partir à la retraite à partir de 62 ans. Et en moyenne, les gens liquident leur retraite, touchent leur première retraite à 63 ans. Mais il ne faut pas confondre cet âge-là avec l'âge auquel les gens arrêtent de travailler. En fait, en 2018, à 60 ans, vous aviez qu'une personne sur deux qui était encore en emploi. Et l'image qu'on a souvent des personnes qui font un pot de départ à la retraite et qui tout de suite après prennent leur retraite, ça concerne même pas la moitié des gens. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent une période sans emploi ni retraite, un sas de précarité entre le moment où on arrête d'être en emploi et le moment où on touche effectivement sa retraite.
Ça concerne combien de personnes ?
Alors, ça concerne en France à peu près 1,5 million de personnes. Donc pour toutes ces personnes-là, repousser l'âge de la retraite, c'est allonger cette période de précarité, soit avec du chômage, soit avec des revenus minimums ou des revenus d'invalidité. Un bon objectif, ça serait déjà de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas pour plus d'une personne sur deux.
Et pour ceux qui travaillent, rester en emploi à partir de 55 ou 60 ans, c'est difficile aussi, qu'on ait un travail physique ou même qu'on soit cadre.
Je m'appelle Agnès Tétard, je suis directeur de l'expérience client chez Butagaz. J'ai été embauchée il y a 5 ans pour, je suppose, les dernières années de ma vie professionnelle.
Parce que vous avez quel âge ?
J'ai 59 ans.
Et donc, vous savez combien de temps il vous reste à travailler ?
Alors, officiellement, je peux prendre ma retraite, et je le sais, le 1er mai 2022. Je me disais, et pourquoi est-ce que, pour finalement, on ne pourrait pas structurer les dernières années de vie dans l'entreprise en faisant passant en 4/5, en 3/5, ou pendant un an, on accompagne son successeur sur un poste. Et puis, soi-même, on apprend ce que c'est que d'avoir un peu plus de temps libre en dehors de l'entreprise. Et l'entreprise, elle, il gagne tout parce qu'on transmet à des gens. Alors après, il y a une question effectivement de rémunération. Il faut quand même arriver à équilibrer sa vie. Si on passe à un 3/5, là, il y a un problème financier qui peut se poser. Mais je pense qu'il faudrait peut-être imaginer des choses comme ça. Parce qu'il y a un moment où on fatigue, entre guillemets, quand même, et où on a envie de faire autre chose.
Et vous, vous voyez ou pas continuer au-delà de 3 ans ?
Si je continue au-delà de 3 ans, ce ne sera pas forcément très longtemps. Ça dépend des moments, ça dépend des projets, ça dépend des jours.
Et ça dépend de quoi, du coup ?
C'est une histoire de pression quand même de l'entreprise, une envie de changer de rythme de vie, je crois que c'est aussi beaucoup ça.
Offrir des postes adaptés aux salariés, les aider à garder leur motivation, on voit que la mission est compliquée aussi pour les entreprises. Je suis allée voir Emmanuel Trivin, le PDG d'Agnès.
En termes de salariés, quelle proportion représente les plus de 50-55 ans ?
Alors, je crois qu'on a à peu près un tiers de nos collaborateurs qui ont plus de 50 ans, 15-20% plus de 55 ans.
Est-ce que ça vous arrive de devoir adapter des postes pour une personne qui vieillit dans le travail ou...
On donne des possibilités de flexibilité, par exemple sur le temps de travail, la possibilité de travailler bien sûr à temps partiel, le télétravail.
Et des formations ?
Alors, en termes de tutorat aussi, c'est peut-être là qu'on doit progresser. Ça fait un partie des sujets sur lesquels on travaille avec la direction des ressources humaines pour aller plus loin dans l'accompagnement des seniors, par exemple dans les nouvelles technologies, mais aussi d'aider les seniors à partager leur savoir avec les plus jeunes générations.
Alors ça veut dire y consacrer du temps, et du temps c'est de l'argent. Si vous mettez en place ces tutorats, est-ce que ça représentera beaucoup d'argent, d'après vous, un investissement important ou...
Surtout, ce qui compte, c'est de pouvoir intégrer que certains de nos collaborateurs puissent passer une demi-journée par mois, par exemple, pour faire du tutorat. C'est le type d'effort qui est tout à fait supportable par l'entreprise.
Donc là, on a l'exemple d'une entreprise de 1000 salariés. Mais est-ce que les économistes ont un regard d'ensemble sur les TPE, PME et les grandes entreprises ? Oui, Annie Jolivet est économiste au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers.
La plupart des entreprises ne sont pas prêtes et ne sont pas conscientes des changements que ça va représenter, d'accueillir des salariés jusqu'à 62, 64, voire 67 ans. Celles qui sont probablement les mieux à même de le faire sont celles qui ont réfléchi à cette question à l'occasion de l'inaptitude d'un salarié, de problèmes de recrutement, d'arrivée de nouvelles technologies, d'interrogations sur une nouvelle organisation du travail, par exemple. Donc ces entreprises-là ont pu faire une sorte d'état des lieux de leur main-d'œuvre et... essayer de mieux comprendre sur quel levier elle pouvait jouer et comment analyser cette question-là. J'ai en tête une PME en Bretagne qui rencontre des difficultés d'usure professionnelle, qui a travaillé sur l'amélioration des machines, donc toute la partie technique pour le secteur production, et qui, dans les deux dernières années écoulées, a beaucoup travaillé sur la prévention de l'usure du service de prise de commande, qui était en prise au stress, à des difficultés pour faire face à la charge de travail et qui donc a travaillé l'organisation du travail de ce service-là. Donc c'est la question des conditions pour tenir dans l'emploi jusqu'à la retraite. Ça ne se limite pas à la question de la charge physique. Bien sûr, il y a des questions de charge lourde, de pénibilité physique, mais c'est aussi une question de pénibilité psychique, c'est aussi une question de charge mentale, de pression temporelle au travail. Et toutes ces questions-là vont bien au-delà des enjeux physiques. Mais la grande majorité des entreprises ne sont pas prêtes. La preuve, la grande majorité des entreprises n'emploient pas de gens au-delà de 60 ans. Ça existe dans quelques entreprises, mais c'est très peu.
Oui ?
Oui, c'est Annaëlle Verzeau, journaliste à France Inter. Merci.
Alors, si les Français doivent travailler plus longtemps, quels efforts devront faire les entreprises ? Je suis allée voir Benoît Serre, le vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines.
La question, c'est à la fois, est-ce que les entreprises sont prêtes à conserver leurs seniors jusqu'à 63, 64 ans, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elles sont prêtes à embaucher des seniors quand ceux-là ont perdu leur emploi ?
Et la réponse ?
La réponse, c'est que je pense que dans les grandes entreprises, par le biais des différentes incitations qui existent depuis longtemps, les accords seniors en particulier, les entreprises commencent à savoir garder leurs seniors. Évidemment, lorsque vous avez des mesures de sauvegarde de l'emploi, le fameux PSE ou des plans de départ volontaire, quelquefois, même si on sait bien que les seniors essayent de partir ou que les entreprises se disent, après tout, un senior qui s'en va, c'est un gain économique direct, puisque les seniors, par le biais des structures de rémunération en France, font qu'ils sont souvent mieux payés que les autres et c'est normal. La question, c'est l'anticipation. Quand vous avez quelqu'un de 45 ans, si vous voulez pas que ça devienne dans 10 ans un senior déconnecté en termes de compétences, c'est à 45 ans qu'il faut le former. Il faut pas se réveiller à 55. D'ailleurs, 45 ans, c'est un âge qui m'attache bizarre. Vous savez qu'en France, vous devenez senior à 45 ans. Alors qu'on parle d'un départ à la retraite à 64 ans. Donc vous avez encore 20 ans de carrière et vous êtes déjà senior.
Benoît Serre, est-ce que, selon vous, les dispositifs actuels d'adaptation de fin de carrière sont efficaces ?
S'ils étaient très efficaces, on n'aurait pas le taux d'emploi des seniors qu'on a. C'est 55%. Donc c'est beaucoup plus faible que dans la plupart des pays de l'OCDE où on est plutôt à 60%. Il nous manque quelque chose. Alors, je pense que les réformes qui ont permis de cumuler les emplois retraite sont plutôt pas mal. Parce que ça a permis de faire un lien pour les personnes. Le fait de créer des conditions plus favorables pour des départs anticipés, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je crois quand même que la question des seniors doit être traitée de la même manière que l'a été la question, par exemple, des jeunes non qualifiés. C'est-à-dire avec des avantages fiscaux certains. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à faire en sorte qu'il soit plus cher de vous séparer d'un senior que de le conserver, alors on les conservera. Donc les mesures actuelles doivent être beaucoup plus fortes, beaucoup plus incitatives, je dirais presque pour forcer les entreprises à conserver leurs seniors.
Restez à droite.
Les entreprises sont-elles prêtes à garder leurs salariés plus longtemps ? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
D'accord.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10.
Vous dépassez la vitesse limite autorisée.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et le secrétaire général de la CGT vient de s'asseoir dans le studio 521. Philippe Martinez, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écouté ce reportage et vous avez dit ça, la place des seniors dans l'entreprise, leur permettre de rester jusqu'à l'âge légal, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet puisque senior, comme on appelle, sur deux qui sera en âge de rester au boulot et n'a plus de boulot, donc est au chômage ou autre système. Ça fait... Premièrement, beaucoup de monde au chômage, hein, ça représente 20% des allocations au chômage, cette population. Et ça a été multiplié par 3, me semble-t-il, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui n'ont plus de boulot en 10 ans. Or, si on les gardait au travail, pas jusqu'à 64 ans d'ailleurs, jusqu'à 60 ans, c'est bon pour eux, parce qu'ils continuent à percevoir un salaire. C'est bon pour l'entreprise, parce que nous croyons beaucoup à la transmission du savoir-faire, le tutorat vis-à-vis des jeunes. Les plus anciens aiment transmettre leur savoir-faire, donc c'est bon pour l'entreprise. Et puis c'est bon pour la retraite, parce que ça fait des cotisations supplémentaires. Donc il faut régler ce problème. Or, vous le voyez bien, et on le voit dans l'actualité, toutes les grandes entreprises, au nom d'un plan de compétitivité, de je ne sais quoi, c'est d'abord les plus de 55 ans qu'ils mettent à la porte et qu'ils renvoient vers la société. Donc c'est un vrai problème, et ça fait un moment qu'on pose la question. MEDEF dit oui, c'est important, mais il ne règle rien, et le gouvernement pareil.
Alors, ça fait partie de l'équation aussi, hein, de la réforme des retraites. C'est ça l'actualité. Vous étiez hier à Matignon. Tous les partenaires sociaux ont été reçus. L'exécutif met en avant sa nouvelle méthode de l'acte 2. Écoute, dialogue, proximité. Vous souriez déjà. C'est ce que vous ressentez, une nouvelle méthode ?
Ben, ça fait déjà 4 fois qu'on nous fait le coup. J'ai entendu le président de la République, on dit plus concertation, on dit négociation. Mais
pas une négociation ?
Mais la réalité, ça fait 18 mois qu'on discute avec Monsieur Delevoye. Donc on en a dit des choses, y compris sur les seniors, par exemple. Aujourd'hui, c'est on a un rapport, nous considérons qu'il n'est pas bon, parce qu'il change radicalement notre système de retraite. Donc soit on négocie, on dit, on recommence à zéro et on écoute les propositions, soit on dit, c'est la base, ce rapport, c'est la base de la discussion, et là, ça devient compliqué.
Et que vous a-t-on dit hier, Édouard Philippe, que vous a-t-il dit ?
Il nous a dit, c'est la base de la discussion. Le président de la République s'est engagé à faire ça, donc là-dessus on change rien. Et donc avec des choses qui sont fausses, l'emploi des seniors par exemple, c'est pas une question de retraite l'emploi des seniors, c'est bien une question d'activité. Je pense à la situation des femmes. On nous dit mais notre système va améliorer les pensions pour les femmes, mais la différence qu'il y a à la retraite, c'est bien la conséquence de la différence qu'il y a pendant la vie active. Donc si on ne règle pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, eh bien, on passe à côté. Donc
ça, vous dites que cette réforme, elle n'est pas plus juste. L'exécutif dit 1 euro cotisé, ça sera le même droit pour tous. C'est une réforme pour la justice.
C'est une réforme pour les premiers de cordée.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Ça veut dire que si vous avez une carrière avec un bon salaire, sans chômage, sans maternité, sans problème de maladie, etc., vous pouvez avoir une retraite décente. Il reste à savoir combien vaudra le point, qui définira la valeur du point et qui décidera, à un moment ou à un autre, de le faire augmenter ou de le faire descendre, parce qu'il pourra descendre. Si Bruxelles dit qu'il faut réduire les dépenses publiques, on ne va pas piquer de l'argent aux actionnaires. Vous. On va piquer de l'argent aux retraités. Donc, tout ça, c'est une réforme qui va être de moins solidaire au niveau de la retraite et plus individuelle. C'est ce que nous contestons.
Est-ce que l'objectif de cette réforme, si je vous écoute bien, s'il n'est pas l'équité, vous parlez de Bruxelles, du pilotage, pour vous l'objectif, quel est l'objectif profond, si ce n'est pas l'équité ?
De faire des économies, une nouvelle fois, sur le dos des citoyens, point. Or, nous pensons que le système actuel, il faut qu'il soit amélioré, parce que évidemment, la situation, elle n'est pas la même qu'en 1945. Mais ce système-là, il est juste, il est solidaire, il a été régulièrement amputé de ses bienfaits. D'ailleurs, Monsieur Delevoye y a contribué dans la réforme de 2003. Les gouvernements successifs ont détruit ont cassé ce système. Il faut l'améliorer. Donc, plus, moins de chômeurs, c'est plus de cotisants. Je vous ai parlé des femmes, je vous ai parlé des seniors. Il faut prendre en compte tous les nouveaux travailleurs, ceux qui dépendent des plateformes numériques. Or, vous savez très bien, et je crois que vous avez évoqué dans une de vos chroniques.
Sandrine Foulon,
que maintenant qu'on reconnaît le lien de subordination entre ces travailleurs et leurs plateformes, eh bien, il faut que les plateformes payent des cotisations. Vous voyez, donc c'est un problème, il faut faire rentrer plus d'argent.
Mais sur le fond, Philippe Martinez, donc Édouard Philippe, vous êtes face à lui, il vous dit ça va être sur la base du rapport de Levoix. Ça va être ça le début de des négociations. Vous dites, ça ne vous va pas, qu'est-ce que vous allez faire?
Il faut que les citoyens s'en mêlent, parce que sinon on va travailler plus longtemps et on aura moins de pensions. Et je crois que la question qu'au moins on me pose régulièrement dans la rue, dans les entreprises, c'est à quel âge je vais pouvoir partir et avec combien? C'est ça les deux repères. Donc il faut arrêter de parler d'âge pivot, d'âge d'équilibre. C'est quel est l'âge légal? Ceux qui veulent travailler, comme j'ai entendu dans le reportage, plus ou plus longtemps, on ne les a jamais empêchés de rester. Mais il faut savoir à quel âge on peut partir. Nous proposons de revenir à 60 ans. Et avec combien? Donc il faut que ça soit 60...
Alors vous proposez de revenir à 60 ans, ça c'est intéressant parce que même si on ne changeait pas le système aujourd'hui qui prévoit le départ à la retraite à 62 ans et voilà, avec un allongement, on aura un problème financier. De toute façon, on sait dans les projections que les pensions vont diminuer, le niveau de vie des retraités va diminuer. Donc...
Si on ne change rien, on aura un problème financier.
Comment vous le résolvez vous demandez la retraite à 60 ans?
Moins de chômeurs, ça fait plus de cotisations.
Mais ça se décrète pas.
Eh ben, il sert à quoi le gouvernement? Il sert à quoi? Moins d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises, c'est plus de recettes pour la sécurité sociale. Or, vous savez bien que pour un certain nombre d'entreprises, ça monte jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Ça a deux conséquences, c'est moins d'argent pour la sécu et que les entreprises n'augmentent pas les salaires. Parce que si vous dépassez ce plafond, eh bien, vous repayez des cotisations. Je crois que les grandes entreprises se portent bien.
Donc vous
avez dû
changer.
Évoquer le fait qu'on soit champion d'Europe des dividendes versés aux actionnaires. Donc c'est une question de partage des richesses.
Donc vous voulez changer l'assiette finalement de recettes.
Notre système est basé sur un principe de solidarité et de cotisation sociale, pas de charge, de cotisation. Donc, il faut que tout le monde mette la main à la poche. Et au fil des ans, c'est les salariés, les travailleurs et travailleuses qui ont mis le plus la main dans la poche. Et de cette poche-là, c'est parti vers les entreprises, les grandes.
Vous allez participer aux négociations?
Écoutez, on va discuter. C'est pas moi qui décide tout seul à CGT, donc on va en discuter. Mais
il y a quelque chose, il y a du grain à moudre. Je vous entends, vos propositions sont à l'opposé de celles du rapport de Levoix. Qu'est-ce que vous avez, à y gagner?
Enfin, je suis pas très fort en mathématiques, mais quand il y a un problème de maths, normalement, on vous donne le problème. Et vous devez trouver la solution. Là, on nous donne la solution, et c'est nous qui devons définir le problème. Il y a un cadre qui est difficile.
Il est possible que vous ne participiez pas?
Je vous dis, on va en discuter, mais ça fait 18 mois qu'on discute. Vous voyez, on n'est pas à la CGT de la chaise vide, ça fait 18 mois. Monsieur Delevoye sort un rapport, et globalement, on reste sur le fond.
En même temps, Force Ouvrière et vous n'êtes pas d'accord. Force Ouvrière fait sa journée d'action le 21, vous le 24. Écoutez, comment peser si vous n'arrivez pas à être unis?
Il faut d'abord expliquer aux citoyens ce qui se passe. Parce que je vous ai parlé, il y a l'âge légal, l'âge d'équilibre, l'âge pivot, les gens ont du mal à comprendre.
Enfin, on voit que deux syndicats n'arrivent pas à peser ensemble.
Monsieur Macron a dit, vous inquiétez pas, on touchera pas à l'âge, mais on va regarder le nombre de trimestres. Vous savez bien que si on augmente le nombre de trimestres, forcément on partira plus tard. Donc il y a une sorte d'enfumage, il faut beaucoup discuter. Nous on n'est pas contre un débat, mais un débat contradictoire. Donc on va organiser des débats dans les entreprises, dans les villes, etc., pour expliquer ce qui se passe.
Ça c'est la concertation citoyenne du gouvernement.
Je sais pas si la concertation citoyenne, c'est un monsieur avec les manches de chemise retroussées qui s'adresse à une salle comme un professeur. Nous le débat c'est une contradiction, voilà.
Les gilets jaunes, Philippe Martinez.
Je pense que ça les intéresse. Parce que c'était au cœur de leur...
Ils veulent reprendre aujourd'hui.
C'est au cœur, parce qu'il y avait beaucoup de retraités qui avaient un gilet jaune en disant on n'arrive plus à vivre avec la hauteur de nos pensions. C'est un vrai problème. Il y a de plus en plus de retraités pauvres. Vous savez très bien qu'il y a de plus en plus de retraités qui sont à la retraite et qui continuent à travailler.
Ils peuvent peser ?
Eh bien, il faut que tout le monde pèse. Parce que sinon, eh bien, on travaillera plus longtemps et on aura des plus petites pensions.
Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Sans Sandrine Foulon. Alors visiblement, Philippe Martinez vous écoute. Olivier va tous les jours au travail à vélo. Il vous a écrit, son employeur va-t-il être obligé de lui verser les 400 euros du forfait mobilité durable ?
Olivier, la loi d'orientation sur les mobilités, la LOM, revient mardi prochain devant les députés. Et non, pour l'instant, le texte ne prévoit pas que ce forfait de 400 euros par an pour les salariés à vélo ou en covoiturage soit obligatoire. Il n'est pas élargi à toutes celles et ceux qui pourraient en profiter pour recharger leur voiture électrique. Ce forfait reste facultatif. Pour répondre à la crise des gilets jaunes, la ministre des Transports avait soutenu le versement d'une prime mobilité obligatoire. Mais le patronat est monté au créneau. Les employeurs doivent déjà contribuer au financement des transports en commun dans les zones très denses et prendre en charge la moitié des coûts des abonnements de leurs salariés. Ça faisait trop. Matignon a tranché avant l'été. Au lieu d'un forfait obligatoire, ce sera donc une négociation obligatoire dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés sur un site. Olivier, votre direction devra s'asseoir autour de la table avec les syndicats pour améliorer les mobilités quotidiennes, inciter à l'usage de modes de transport vertueux et favoriser les mobilités actives. Actives, ça veut dire marche à pied ou vélo. Olivier, il faut le savoir, c'est l'ouverture de la discussion qui est obligatoire. À défaut de trouver un accord, l'employeur devra mettre en place un plan de mobilité d'entreprise.
Mais ces plans de déplacement, ça existe déjà dans les entreprises.
Absolument, la loi sur la transition énergétique de 2015 oblige les entreprises situées dans de grosses agglomérations et qui regroupent 100 salariés sur un site à mettre en place un plan de mobilité pour réduire les transports polluants. C'est un ratage. Un an après l'entrée en vigueur de cette obligation, il n'y avait que 8% des 17 000 entreprises concernées qui étaient dans les clous. Il faut dire que le texte n'est pas contraignant. Olivier, laissons au dialogue social une seconde chance pour sauver la planète. Ce qui est sûr, c'est que la conscience verte des employeurs reste encore en germe. Le réseau Action Climat estime que 130 entreprises à peine ont mis en place l'indemnité kilométrique vélo facultative. Bon, le gouvernement s'est engagé à agir si cette nouvelle obligation de négocier ne donne rien. Mais patience, Olivier, il faudra attendre un premier bilan des accords. Ce sera au moins dans 3 canicules.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.